BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Erwan Maurice.
17h30, soyez les bienvenus, ravi de vous retrouver. On est en direct tout au long de l'été. On vous accompagne chaque jour jusqu'à 18h pour revivre ensemble la séance boursière, partager avec vous les analyses de nos meilleurs experts. Dans un instant, la clôture. À quelques minutes de la cloche, le CAC 40 qui a calé hein, en fin de journée. Bon, finalement, on devrait clôturer sur du vert. On est sur un gain de 0,17%, 8354 points à 5 minutes maintenant de la clôture. Plutôt voilà, proche de l'équilibre, donc sur fond de cours de pétrole qui poursuivent leur ascension et dans l'attente de résultats d'entreprise aussi cette semaine, on en parlera dans un instant. Séance en cours également du côté de Wall Street, c'est du vert. Le S&P 500 progresse de 0,7%, le Dow Jones plus 0,5%, plus 1,2% pour le Nasdaq. Tout cela sur fond toujours de crise au Moyen-Orient, situation dans l'impasse, le détroit d'Ormuz toujours bloqué. En mer Rouge, les Houthis ont mis en place un blocus maritime contre l'Arabie Saoudite. Des tensions qui se ressentent, on le verra dans un instant, sur le prix du pétrole. Le Brent progresse de plus de 2,5%. On a passé, ça y est, les 90 dollars. Hein, en ce moment, 91, un peu plus de 91 dollars. Au programme de cette demi-heure aussi, la tech. On assiste à une vague d'achats sur les valeurs européennes des semi-conducteurs, alors que la Chine parle aujourd'hui d'un durcissement des contrôles à l'exportation sur l'intelligence artificielle et sur les puces pour freiner les transferts technologiques. Hein, c'est un petit peu le monde à l'envers, hein, au moment où voilà, c'est quand même plutôt... quand même plutôt les États-Unis qui ont ce type de réflexe et les Chinois qui copient, bah voilà, la tendance est en train de s'inverser dans le secteur technologique. Ça en dit long sur ce qui se passe. On jettera aussi un œil du côté de la City où les valeurs de la défense sont portées par une annonce politique. La nomination d'un ancien ministre des armées aux finances, de quoi relancer les espoirs peut-être hein, d'un budget militaire ambitieux. Tout cela donc en direct jusqu'à 18h avec nos invités que je vous présente. Avec nous en plateau, Adrien Henry, bienvenue.
Bonjour.
Adrien, vous êtes analyste marché chez Kepler Chevreux. Clémence de Rothiacob est également avec nous pour nous accompagner ce soir. Bonsoir Clémence.
Bonsoir Erwan.
Gérante Small et Midcap chez Richelieu Gestion, également à distance. Andrea Tueni, sales trader chez Saxo Bank. On va vous retrouver dans un tout petit instant, Andrea. Peut-être avant d'entrer dans le dur, qu'est-ce qui retient votre attention cette semaine, en ce début de semaine et dans les jours à venir? On le disait, on est dans une phase de publication. Adrien, avec vous, peut-être pour commencer.
Ce qui retient, vous l'avez dit, hein, c'est le pétrole. On est dans un attentisme. Le marché est clairement autour de l'équilibre. La séance précédente, on était 0,05. Aujourd'hui, 0,20. Bon, voilà. Il n'y a pas de tendance claire. C'est vraiment ce retour du conflit au Moyen-Orient qui inquiète d'autant plus qu'on est dans un environnement un peu spécifique parce qu'il y a une forte consommation, les gens partent en vacances, que ce soit dans les grands pays et dans les grands pays développés, et on voit typiquement effectivement en France le prix à la pompe qui a nettement progressé sur des niveaux même au-dessus de ce qu'on avait pu voir sur les dernières semaines. Donc ça, c'est vraiment une tendance assez inquiétante avec effectivement ce baril de Brent qui dépasse les 90 dollars et qui, on le sait, en fait, les réserves mondiales sont beaucoup moins importantes que ce qu'elles étaient au début du conflit. Donc, s'il y a un acte 2 qui se fait avec ce détroit d'Hormuz, il sera forcément beaucoup plus répercutant sur l'inflation et sur les prix du pétrole.
Ouais. Ce qui explique déjà qu'à la pompe, vous l'évoquiez, les prix sont remontés très vite, beaucoup plus vite que lors du premier choc, parce que déjà, oui, on n'a plus vraiment les stocks qu'on avait à l'époque et qu'il faut continuer de raffiner du produit qui coûte cher.
Tout à fait. Il faut encore l'avoir, effectivement.
Donc, beaucoup d'attentisme autour de ça. Malgré tout, peut-être pour terminer là-dessus, on a des marchés européens et américains qui résistent quand même plutôt bien, non? Parce qu'on est quand même passé au-dessus des 90 dollars le baril de Brent, et on est quand même dans le vert.
Tout à fait, c'est le rebond. Enfin, la semaine dernière a été catastrophique sur la thématique intelligence artificielle, semi-conducteur avec des prises de bénéfices. Bon, bah, les investisseurs voient le verre d'eau à moitié vide cette fois-ci, enfin, à moitié plein maintenant, sur ces deux premières séances où STM, Soitec rebondissent sur cette thématique-là. Il n'y a pas de vrai fondement pour le moment pour vraiment appliquer une différence par rapport à la vision du marché la semaine dernière. Mais c'est ça qui effectivement tire un petit peu cette tendance positive et aussi les valeurs comme Total Energy. Je pense que c'est la deuxième ou troisième meilleure performance aujourd'hui. Donc voilà, c'est cette thématique-là qui permet effectivement de rester à l'équilibre et garder la tête hors de l'eau, quoi.
Clémence Durotier-Cobb, qu'est-ce qui retient votre attention là cette semaine?
Oui, pour rebondir sur cette thématique-là, c'est vrai que je pense que le marché est aussi rassuré parce que finalement, on se rend compte que les tractations diplomatiques sont toujours à l'œuvre. Donc en fait, au Moyen-Orient, donc finalement, on peut du jour au lendemain avoir une négociation qui repart. On a vu que le pétrole avait reflué assez rapidement. Donc ça, c'était rassurant aussi pour les marchés lors du premier round de négociations réussies. Donc le marché, on manque de visibilité. Par rapport à une potentielle escalade. Donc ça c'est aussi rassurant. Il n'empêche que un positionnement stratégique peut, à notre sens, en termes d'allocation, ça a quand même resté intéressant. Il reste intéressant de rester sur certains groupes pétroliers, notamment ceux qui sont exposés au raffinage, parce qu'on sait que les marges de raffinage, de toute façon, vont rester élevées pendant longtemps, même si le pétrole commence à refluer. Il y a vraiment un effet d'inertie qui va rester. On pense à un titre comme Repsol, qui pour nous reste une thématique deuxième semestre intéressante. Et pour la partie technologie. Donc, c'est la deuxième patte qui inquiète le marché. On est vendredi, on a failli rentrer ce qu'on appelle en bear market pour le secteur technologique. Donc, en marché baissier sur ce secteur-là, on était limite. Le rebond permet de calmer un peu ces attentes-là. C'est pour nous, c'est pas un changement de c'est un changement de positionnement en fait. Les valorisations qui étaient excessives sur certains titres, notamment coréens, s'ajustent un peu. C'est plutôt ça, en fait, ce genre de phase, de plateau où le marché corrige un peu. Et ce n'est pas un éclatement bulle complet, à notre sens. Il reste beaucoup de potentiel sur cette thématique-là de puces.
On voit qu'il y a quand même de la fébrilité, comme vous le disiez, sur ce secteur-là.
À la mesure des hausses qu'on a eues sur ce secteur-là, dans la mémoire, en fait. C'est vraiment le segment mémoire de la partie semi-conducteur qui a explosé. On parle de performances boursières qui sont colossales. Donc, et beaucoup d'options aussi qui ont été jouées techniques sur ces valeurs-là. Donc c'est pour ça qu'on voit une purge qui paraît impressionnante de l'extérieur.
Vous suivez les small et mid cap. On est Clémence de Rothiacop dans une semaine de publication. Virbac, une des premières hier soir. Peut-être on l'analyse rapidement avant la clôture du CAC 40 parce que vous avez regardé ça de près. On est sur des résultats quand même convaincants.
Oui, c'est ça. Et puis ce qui est intéressant avec Virbac, déjà c'est une publication qui est supérieure aux attentes du marché, qui est très rassurante. On a une croissance qui reste vraiment solide, croissance organique un peu plus de 7%. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un titre qui finalement, on va avoir des révisions à la hausse des attentes des estimations pour l'année du consensus, alors que c'est un titre qui avait plutôt déraillé, baissé, parce que notamment son concurrent américain Zoetis, qui est le grand laboratoire de santé animale, avait fait une publication décevante. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant pour nous. Ça fait partie des titres de qualité, un titre familial très exposé à l'innovation, avec un mix produit qui est très favorable, qui va bénéficier aux marges. Donc pour nous, c'est un titre intéressant dans ce genre de contexte. C'est une visibilité qualitative et qui est saluée aujourd'hui par le marché.
17h38, le fixing. On regarde ce que fait le CAC 40 en cette deuxième séance de la semaine. C'est la clôture, le CAC 40. Ça sera donc du vert pour l'indice parisien. Plus 0,28%, 8363 points. Du côté de l'Eurostock 50, on progresse également 0,87, 6281 points. Le 10 ans français, pas loin des 4%. Hein. Ça progresse encore depuis là plusieurs jours d'affilée. On est à 3,96. Du côté des valeurs, on en parlait dans les semi-conducteurs, STMicro signe la plus forte progression du CAC 40. On est sur une progression de 4,3% presque. L'action s'achète 57,25€. Derrière, les bancaires, Société Générale, plus 2,7%. Total Énergie, plus 2,3%. Suivi de BNP Paribas, 1,80%. Du côté des plus fortes baisses, Publicis recule de 2,4%. Danone, 2,3%. Eurofins, moins 2%. LVMH, on en parlera. Le luxe qui publie la semaine prochaine, signe un repli d'1,7%. Andrea Tuoni, sales trader chez Saxo Bank. On vous retrouve depuis votre salle des marchés. Andrea, quel signal cette clôture envoie-t-elle ?
Globalement, le signal qu'on peut retenir aujourd'hui sur les marchés, c'est que certes, les éléments d'ailleurs que vous avez évoqués tout à l'heure en plateau, c'est des éléments qui n'ont pas d'impact particulièrement négatif. On en a cité pas mal. Il y a en effet la géopolitique avec cette incertitude, ce manque de visibilité qu'on a autour de ce conflit géopolitique. On a aussi une saison de résultats qui va s'accélérer avec pas mal de publications des valeurs de la tech. Et on sait que la tech est au centre de l'attention parce qu'il y a eu en effet une correction assez importante la semaine dernière, notamment sur les semi-conducteurs. Donc tous ces éléments-là qui aujourd'hui perturbent, on va dire, la marche en avant, avant des marchés, elle ne vient pas, en tout cas, retourner la tendance de fond qui reste globalement positive. Mais en tout cas, ce qu'on a et ce qu'on observe sur le CAC, c'est qu'on reste sur un range qui est très très marqué et qu'on a du mal à casser un petit peu les plafonds de verre qu'on a pu voir sur les dernières séances pendant les dernières semaines. Donc, si on revient par exemple à il y a même 2-3 semaines de là, on avait à peu près peut-être la même conversation sur ce plateau, dans cette émission, sur les niveaux en tout cas techniques du CAC, à savoir qu'aujourd'hui on reste quand même bloqué encore une fois dans ce range qui est assez serré. On a un niveau de résistance, un premier autour des 8455 points, on a une autre résistance vers les 8500, 8505 points. Voilà les deux principaux niveaux aujourd'hui qu'on peut surveiller, qui constituent une sorte de plafond de verre. On peut aller aussi un petit peu au-delà des 8500, mais globalement même on les a franchis à peu de reprises, donc on peut exclure un peu ces niveaux au-delà des 8500, mais c'est vraiment ces deux niveaux-là aujourd'hui qui crispent un petit peu la hausse sur les marchés. Et puis à l'inverse, on a des niveaux assez marqués de support, 8275, 8259, qui est un vrai gros niveau de support pour le coup. Et puis après, derrière, c'est autour des 8130 points qu'on pourrait glisser si jamais le marché venait à se retourner, mais on va pas vraiment sur ces niveaux-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai que sur le plan macroéconomique, on a ce manque de visibilité. On peut ajouter aux valeurs de la tech et aux scénarios géopolitiques, on peut ajouter aussi les banques centrales qui sont un point d'interrogation et qui vont être un sujet à la rentrée, parce qu'on a encore un manque de visibilité aussi sur la politique monétaire des banques centrales et encore plus du côté de la Fed depuis la nomination de Kevin Warsh. Donc ça aussi, ça va ajouter de l'incertitude, ça va donner beaucoup plus d'intérêt à la macroéconomie. Donc la macroéconomie et la microéconomie dans cette période de résultats d'entreprise va prendre beaucoup de poids et va prendre beaucoup d'importance, parce qu'on n'a plus justement, encore une fois, cette forward guidance. Donc on va suivre attentivement les données macroéconomiques. Mais c'est vrai que voilà, malgré ce manque de visibilité, on n'est pas sur des marchés qui se retournent, mais on est sur des marchés qui ont de plus en plus de mal à avancer et qui ont du mal à trouver le carburant pour s'installer au-dessus de certains niveaux de résistance. C'est très frappant sur les indices européens et notamment sur le CAC, mais c'est aussi vrai sur les indices américains, qui ne reviennent pas sur des sommets en tout cas, mais qui restent quand même sur des niveaux qui sont relativement soutenus et qui nous éloignent en tout cas, ou qui restent plutôt très éloignés des signaux d'alerte.
Un petit mot peut-être avec vous, Andrea Tueni, chez Saxo Bank, sur le secteur de la défense. On regarde ce qui se passe du côté du Royaume-Uni, un nouveau gouvernement avec la nomination remarquée d'un ancien ministre de la Défense au poste des Finances, de quoi relancer les espoirs d'un budget militaire ambitieux. Ça plaît quand même au secteur de la défense à la City. En France, sur le CAC 40, on a Thales qui signe un contrat cadre avec l'Allemagne pour des systèmes de vision optronique, vision nocturne. Alors, on n'a pas les détails de ce contrat. Thales qui clôture sur du vert, plus 0,5%. L'action s'achète 225 €. Est-ce que, selon vous, le secteur de la défense, on l'a beaucoup dit ces dernières semaines, est toujours sous-évalué?
Je pense que sur le secteur de la défense, en effet, il y a une actualité qui est assez forte autour du Royaume-Uni, de cette nomination de l'ancien ministre de la Défense qui vient envoyer un signal assez fort. On avait eu un signal plutôt inverse à l'époque, au moment de sa démission, on avait eu un signal plutôt négatif pour les valeurs de la défense, et notamment celle du Royaume-Uni. Aujourd'hui, sa nomination à un poste plus important donne un espoir, en tout cas, ou relance en tout cas cette thématique du thème de la défense au Royaume-Uni, et peut-être par ricochet sur certaines valeurs aussi de la défense en Europe. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui faut comprendre sur ce thème de la défense. Bon, déjà, on n'a aucune garantie sur ce qui va se passer au Royaume-Uni, parce qu'on a quand même une rigueur budgétaire qui a aussi été annoncée par le Premier ministre. Donc cette rigueur budgétaire, elle peut freiner un petit peu le calendrier de dépenses qu'on va avoir sur ce secteur de la défense. Donc ça, c'est aussi un point qu'il faudra surveiller. On peut avoir aussi certaines déceptions. On a des carnets de commandes sur certaines valeurs qui sont assez importants, mais derrière, il peut y avoir des déceptions sur les capacités de livraison et donc potentiellement sur des décalages qui peuvent aussi la ralentir, on va dire, ce mouvement positif. Donc pour le moment, on le voit plus comme un mouvement de rattrapage sur ces valeurs au Royaume-Uni, sur un contre-événement. On avait eu du coup cette démission, un signal plutôt négatif. Là, on a une nomination de quelqu'un proche du secteur de la défense à un poste plus important qui envoie un signal du coup qui est plus positif. Mais il faut rester assez méfiant sur ces niveaux-là. Et je pense que dans tous les cas, ce qu'il faut retenir sur ce secteur de la défense, et je pense que c'est quelque chose qui est important, c'est que c'est plus vraiment un secteur qu'on peut jouer sur une thématique géopolitique uniquement. C'est devenu un secteur plutôt affilié industrie, et qui du coup est un secteur sur lequel on peut jouer des thématiques sur du plus long terme. Et donc du coup, aujourd'hui sur la défense, la clé, c'est plus la diversification, parce qu'il y a plein de valeurs de la défense qui vont aller cocher plusieurs cases sur différents types d'équipements militaires, de transport, de logistique, etc., qui permettent du coup une diversification. Et si on a cette diversification et si on a cette projection sur le long terme, et qu'on le joue du coup comme un secteur plus affilié industrie qu'un secteur uniquement qui progresse quand il y a un conflit géopolitique, là pour le coup il y a en effet du potentiel sur du plus long terme sur ce secteur-là. Mais encore une fois, cet événement propre au Royaume-Uni donne de la visibilité à court terme, mais beaucoup moins de visibilité à long terme. Donc je pense qu'il y a un effet d'annonce aujourd'hui qui joue, mais qui sera à confirmer dans la durée avec justement la mise en place d'un budget et voir un peu à quel niveau de priorisation on va situer la défense.
Merci de nous avoir accompagnés sur cette clôture et sur ces éléments. Andrea Tueni chez Saxo Bank. On poursuit avec nos invités en plateau. Il est 17h45. Je rappelle la clôture du CAC 40 hein, dans le vert, plus 0,28%, 8363 points. Peut-être aussi, on va regarder avec vous, Adrien Henry chez Kepler Chevreux. On en parlait hier, bah forcément, on arrive dans une séquence aussi importante de politique monétaire. La BCE cette semaine, la Fed la semaine prochaine. Comment est-ce que vous analysez ça et tous ces éléments dans ce contexte?
C'est une analyse assez simple parce qu'on s'attend beaucoup à des statu quo pour juillet. On pense que la tension, elle va être surtout sur le mois de septembre, et à la fois pour la BCE et à la fois pour la Fed. Les discours vont être beaucoup scrutés de savoir pour anticiper, essayer d'anticiper au maximum qu'est-ce qui pourrait être annoncé pour septembre. Mais on s'attend effectivement à des hausses de taux de 25 points de base plutôt sur les réunions en septembre. J'ai envie de dire que les deux idées, et c'est par quoi on a commencé finalement aujourd'hui sur le thème de la journée, mais c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un gros boost pour l'inflation. On l'a vu, le prix des puces, de tous les semi-conducteurs. Donc ça entraîne effectivement des grosses craintes sur l'inflation, et tous les marchés sont liés, les marchés actions sont liés avec la technologie. Si elle continue à augmenter, l'inflation va entraîner certainement des hausses de taux, des relèvements de taux aux États-Unis. Donc ça, c'est une crainte pour la suite. Puis cette reprise du conflit, c'est également un gros pan de l'inflation. Est-ce qu'elle va continuer à pousser l'inflation sous-jacente? Le mois de juin a été pour l'instant marqué un certain apaisement au niveau de l'inflation, mais le mois de juillet pourrait très bien être tout à fait différent avec ce contexte qui est assez changeant au niveau des prix de l'énergie.
Inflation dans les puces, Clémence de Rothiacob chez Richelieu Gestion. On le voit aussi avec TSMC, hein, du côté de la Chine, TSMC qui dit qu'il va augmenter...
De Taïwan, attention.
De Taïwan, pardon.
C'est pas encore
oui.
La Chine.
De Taïwan, qui va augmenter ses tarifs de production de puces jusqu'à 10% l'an prochain.
Oui, alors c'est très intéressant parce que le CEO de TSMC fait preuve de sagesse, et il a annoncé il va pas quadrupler les prix comme ce qu'ont fait les acteurs de la mémoire. 10% c'est très absorbable par tout le monde, sachant qu'ils ont un monopole. Donc en fait finalement ils auraient pu annoncer des hausses de prix beaucoup plus importantes. Pour eux c'est important que leurs clients restent solvables, et même si ils se disent jaloux des marges des fabricants de mémoire aujourd'hui, mais l'idée c'est vraiment d'accompagner dans la durée leurs clients. 10%, ça semble, c'est à partir de 2027, et ça semble être donc la norme. Et dès l'instant où un client demandera des capacités additionnelles qui n'étaient pas prévues dans le cahier des charges, là, ils pourront passer des hausses de prix supplémentaires. Donc finalement, c'est assez intelligent de leur part, et ça permet d'éviter une inflation aussi sur cette partie-là. Donc on trouve que ça reste une des sociétés qui est très bien gérée. Après, modulo le risque qu'on peut avoir politique d'investir dans Taïwan avec un potentiel conflit avec la Chine qui voudrait rapatrier ces actifs-là, mais aujourd'hui, c'est vraiment le mastodonte, ce qu'on appelle les founders, dans incontournables dans les semi-conducteurs.
Semi-conducteurs, on en parle encore sur le marché européen et notamment du côté de la France. On évoquait STMicro hein, qui signe la plus forte hausse du CAC 40, mais si on regarde le SBF 120, c'est Soitec hein, qui est aussi en tête avec une hausse de plus de 10%, hein, 10,5%. Le titre s'achète 95 €. Il y a un vrai quand même phénomène, et c'est vrai qu'il y a un petit effet quand même yo-yo en ce moment, non, sur ces valeurs-là.
Oui, alors Soitec revient de très loin. Hein. Il y a eu un changement de management également. Il y a eu de très longues années difficiles. Et puis cette année, le groupe a beaucoup mis en avant la valeur ajoutée qu'il avait dans la photonique. Et c'est vraiment ce que le marché a acheté de façon assez massive. Et la baisse que nous avons pu voir ces dernières semaines a été avec toute cette baisse des valeurs liées à la mémoire, etc. Donc c'est plus une baisse sectorielle. Voilà. Après, c'est un titre qui reste très, très volatile, très spéculatif. Il y a beaucoup de choses intégrées qui ne sont pas encore beaucoup de choses intégrées au cours de bourse qui ne sont pas encore effectives dans les comptes, donc c'est un titre, il y a un profil de risque qui est assez élevé selon nous sur ce titre-là.
On le disait dans les titres du côté de la Chine cette fois-ci, ça bouge dans les semi-conducteurs puisque Pékin envisage de durcir les contrôles à l'exportation sur l'intelligence artificielle et sur les puces. C'est un petit peu le monde à l'envers là, on a l'impression, non Adrien?
En gros, je pense que c'est en lien avec une information qui est sortie il y a une semaine ou deux, mais que Apple allait commencer, allait demander au gouvernement américain pour pouvoir que des fournisseurs chinois soient acceptés, entre guillemets. Et c'est-à-dire qu'en fait, Apple, l'unique moyen qu'ils ont pour éviter des hausses de prix trop importantes de leurs composants et in fine de leurs produits, qui sont déjà assez chers, c'est effectivement d'avoir des fournisseurs qui soient moins chers, ou en tout cas différents. Et donc, là, c'est un petit peu la réponse du gouvernement chinois sur ces plus vous exportez finalement et plus vous mettez à risque dans votre propre consommation. On voit qu'il y a continuellement des nouveaux modèles de développement d'IA en Chine et que c'est un secteur effectivement qui est bondissant chez eux et qui doit être une priorité nationale, et donc c'est une décision qui est finalement tout à fait normale de la part du gouvernement et qui pourrait impliquer qui pourrait avoir d'autres répercussions pour d'autres groupes notamment en Asie, par rapport à des groupes américains qui sont peut-être moins consommateurs de tech chinoise. Ouais.
Clémence Durand-Jacob, sur cette actualité.
Oui, c'est un revirement, puisque finalement, la perception que nous avons pu avoir pendant des années du marché chinois, de l'industrie chinoise, là, on a l'inverse. La Chine se perçoit elle-même comme détentrice d'actifs stratégiques qu'elle doit protéger. Donc, on a vraiment et on le voit d'ailleurs avec les dernières annonces sur des potentiels concurrents des LLM américains dans l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que on va avoir donc une fragmentation technologique entre deux blocs. On va se rendre compte, et on l'a vu avec certaines opérations, que le marché chinois a bloqué de rachats d'Américains, de titres chinois par les Américains qui ont été bloqués par la Chine. Donc on a vraiment une polarisation et c'est vraiment la course à l'innovation avec un protectionnisme qui s'accélère en fait des deux côtés.
Ouais. C'est peut-être paradoxal d'ailleurs ce que je pensais à ça, mais c'est vrai qu'il y a un protectionnisme de composants, mais à l'inverse, en fait, c'est une technologie qui est totalement ouverte.
C'est-à-dire qu'en
DeepSeek, tous ces modèles-là,
est-ce que ça va le rester
avec
c'est une question aussi.
Et en fait, c'est en gros l'idée, c'est que eux produisent et utilisent leurs propres composants et que nous soyons utilisateurs de leur modèle, ce que font les Américains. Hein, mais donc, en ne partageant pas effectivement leurs composants, ils garantissent effectivement que vous soyez obligés d'utiliser leur technologie ou celle des Américains si elle est dessus.
Avec la Chine qui continue donc à progresser très très vite dans ce secteur. On en parle depuis la fin de la semaine dernière. Cette nouvelle entreprise qui fait peur jusque dans la Silicon Valley, Moonshot, qui parle déjà de s'introduire à la bourse de Hong Kong, un acteur supplémentaire. Là, comment est-ce que vous regardez cette annonce ?
Nous, on n'est pas spécialisé sur la bourse d'Hong Kong, et c'est vrai que ça fait penser à il y a deux ans le nouveau modèle qui est arrivé, DeepSeek, qui est maintenant à son troisième niveau, je crois. Donc ça a fait grand bruit. Je me souviens de l'impact sur des groupes Legrand, tous les data centers qui étaient tous les valeurs des data centers, etc. Aujourd'hui, un nouveau modèle, il en sort des nouvelles versions de ChatGPT, de Claude, il en sort très régulièrement. On voit que c'est une technologie qui va très très vite. Au vu de la volatilité des marchés aujourd'hui liée à la thématique de l'intelligence artificielle, je doute qu'il soit très judicieux de vouloir s'introduire aujourd'hui. Après, s'il décide de le faire...
Clémence Durand-Jacob, est-ce que ça peut agiter un peu le secteur?
Oui, c'est ça, mais justement, parce que c'est pas confirmé encore, on n'est pas sûr, mais ils projettent de s'introduire en bourse. On a vu d'ailleurs qu'OpenAI, donc ChatGPT, a décalé son introduction en bourse en 2027 parce qu'il vise vraiment une valorisation au plus haut, ce que le marché ne peut pas garantir aujourd'hui. En revanche, on devrait avoir Anthropic qui devrait s'introduire en octobre. C'est des choses à suivre. Ça va évidemment créer beaucoup d'intérêt, ça va cristalliser beaucoup d'intérêt et ça permettra de mettre des valorisations aussi, à l'instar de SpaceX lors de l'introduction en bourse. Donc, pour nous, toute introduction en bourse est plutôt bénéfique à la compréhension d'un secteur et au suivi, etc., et à la visibilité.
OpenAI, je sais qu'il y a eu du mouvement avec le départ de Fujisimo qui a peut-être remis en question l'entrée en bourse cette année. Hein. Je crois que sa remplaçante voudrait plutôt
2027, c'est ça.
Repousser au moins 2027 peut-être.
Ils veulent 1000 milliards de dollars de valorisation. Ouais. Donc avec l'incertitude des marchés, c'est pas ça. Certain qu'on arrive à ces niveaux-là. Donc ils vont peut-être attendre d'avoir davantage de stabilité des marchés financiers.
Ils veulent pas finir comme SpaceX.
C'est ça.
Maintenant qu'on s'est détourné de SpaceX, il y a peut-être des fonds à aller chercher aussi de ce côté-là. Il nous reste 2 minutes. minutes avant les idées d'investissement, peut-être pour le second semestre, justement, un mot du luxe, parce qu'il y a des publications la semaine prochaine. Alors là, on a LVMH qui clôture sur du rouge, hein, moins 7%, 478 € l'action. Qu'est-ce qu'on en attend? Est-ce qu'on est dans une forme aussi de... d'attentisme jusqu'à ces publications. On a eu Richemont.
C'est ça. Alors, on a eu Richemont qui était particulièrement bon. Alors, Richemont a la particularité, comme certains groupes suisses, qui ne publient que deux fois par an des états complets financiers. Donc là, on avait seulement chiffre d'affaires de Richemont. Mais ça donne une bonne indication. Il était très, très bon. C'est vraiment... ils sont positionnés sur la haute joaillerie. C'est ce qu'on appelle le hard luxury. Donc, c'est vraiment ce qui tient. On a des croissances à deux chiffres très fortes, là, même plus des 20%. Donc, ça a été une très bonne publication. Pas certaine qu'on puisse extrapoler avec des groupes très diversifiés, comme LVMH, plus exposé à ce qu'on appelle le soft luxury, comme Kering. LVMH, ça va être, donc c'est le 27 après bourse, donc on aura le 28. Le 28 matin, on aura Kering aussi. Et après, on aura Hermès le lendemain. Pour LVMH, ça va être intéressant de voir si on va vraiment déjà avoir, est-ce que le recentrage de Dior, de la marque Dior, se voit déjà, commence à être effectif. Le marché s'inquiétait aussi pour la partie spiritueux, l'évolution qu'on peut avoir sur cette division-là qui est un peu plus en difficulté. Et puis l'évolution des marges, on sait qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits sur les marques à bon escient, hein, vraiment c'est de l'investissement pour le long terme, mais est-ce que à court terme ça va peser? Et Kering, le marché l'an dernier avait beaucoup acheté la nouvelle histoire de nouveau management, de nouveau direction créative chez Gucci. Maintenant que ce re-rating là est fait, il va falloir qu'on ait des premiers effets dans les comptes, et Hermès devrait avoir une très bonne croissance à deux chiffres, enfin proche des deux chiffres en tout cas. Mais c'est vrai que tout va dépendre de la partie chinoise. Ouais. C'est vraiment le plus exposé à cette thématique-là.
Il est 17h57. En 15 secondes, idée d'investissement là, pour la deuxième partie de l'année. Qu'est-ce que vous regardez?
On continue de bien aimer le secteur de l'aéronautique défense. Vraiment, pour nous, c'est un secteur sur lequel on a une bonne visibilité. Un titre notamment comme Lizzie, un fournisseur qui nous semble très pertinent, avec très bien géré, une amélioration de la chaîne de production et des cadences chez Airbus et Boeing qui continuent d'être augmentées.
On le voit là aussi avec les commandes, hein, au salon de Farnborough,
oui,
en ce moment les commandes qui s'additionnent. Adrien Henry, quelle valeur, quel secteur?
Nous, on pense qu'effectivement, prendre des bénéfices sur l'intelligence artificielle pour revenir un petit peu plus sur la souveraineté européenne, sur un groupe, et notamment peut-être sur le compartiment des small et mid cap, effectivement, qui n'a pas bénéficié réellement de l'effet de l'intelligence artificielle, malheureusement. Une valeur, pour rester dans le thématique de la défense, nous, on aime bien Exosens, par exemple. On est repassé à l'achat sur cette valeur-là. C'est une valeur qui est très exposée à des contrats européens et qui a bâti vraiment d'une valorisation assez... une baisse de sa valorisation, moins 20% quasiment depuis les pics. Donc c'est un titre qu'on apprécie et qu'on pense qu'il faut revenir dessus. Ouais.
17h58 tout pile, merci de nous avoir accompagnés. Nous sommes au bout, Adrien Henry, analyste marché chez Kepler Chevreux, Clémence de Rothiakov, gérante Small et Mid Cap chez Richelieu Gestion. Avec nous aussi tout à l'heure, André Attioni, sales trader chez Saxo Bank. Pour ceux qui le souhaitent, on est ensemble encore jusqu'à 18h30. Dans un tout petit instant, c'est le 18h écho, 30 minutes de condensé de l'actualité économique du jour. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.